Je vais commencer par vous expliquer mon titre, hein, ça sera un bon début. Pourquoi l'homme sans intérieur ? Eh bien, tout d'abord, ça fait référence évidemment à la cybernétique des années 40. L'homme sans intérieur, c'est l'homme de la société cybernétique. Hein. Dans la cybernétique, finalement, les individus n'étaient conçus comme étant constitués de rien d'autre que de la somme des relations et interactions qui le contiennent. Et ça, pourquoi ? Parce que, tout simplement, dans la cybernétique, le principe même des le principe des systèmes vivants est l'information. Hein. Je me suis permise de faire ce rapprochement parce que justement j'avais l'ambition sans doute excessive de faire un lien entre des recherches relativement anciennes que j'ai faites qui concernaient la génétique humaine dans une approche un peu néo-foucauldienne, hein, donc quelle est l'incidence des discours sur la génétique humaine sur la solidarité collective, sur la manière qu'on a de se gouverner, sur la disciplinarisation des individus par rapport à leurs risques individuels, etc. Donc tout ça est contenu dans un livre ici qui s'appelle « Human Genes and Neoliberal Governance ». C'est en anglais, c'est publié chez Routledge. Voilà. Bon, du coup, j'ai repris un peu certaines choses de là et je voulais faire le lien avec ce qui m'intéresse beaucoup plus actuellement, qui est ce que j'ai appelé la gouvernementalité algorithmique. C'est-à-dire, bon, c'est un champ de recherche, hein, ça désigne plus un champ de recherche qu'une recherche déjà aboutie. C'est un champ de recherche qui concerne finalement les transformations dans les modes de production du savoir, dans les modes de gouvernement des conduites et dans les modes de subjectivation, transformations qui sont induites par les nouvelles capacités de calcul sur des masses gigantesques de données, les big data. Alors pour vous donner une définition qui s'expliquera d'elle-même, j'espère, au cours de l'exposé, on peut dire que finalement, la gouvernementalité algorithmique ou le gouvernement algorithmique est un mode de gouvernement des conduites. Gouvernement, j'entends pas ça au sens institutionnel, hein. On peut se dire que, à la façon de Foucault, que tout qui a la possibilité et l'envie ou parvient simplement à conduire les conduites possibles des autres gouverne. Donc on peut dire qu'un instituteur gouverne, que la publicité gouverne, que les injonctions à la meilleure santé possible, d'où qu'elles viennent, gouvernent. Donc vous voyez, je prends le gouvernement au sens vraiment le plus large possible comme conduite de conduite. Donc la gouvernementalité algorithmique est un mode de gouvernement qui est nourri essentiellement de données brutes. Alors je m'attacherai un petit peu à cette notion de données brutes parce que, à mon sens, la donnée brute est un nouvel objet sémiotique tout à fait inédit. Hein, ce n'est pas une donnée à caractère personnel, ce n'est pas une donnée sensible. Une donnée brute, c'est quelque chose de particulier, ce n'est pas quelque chose qui est dans la nature, c'est quelque chose qui est construit comme brut. C'est un affinement en quelque sorte, mais je reviendrai là-dessus. Donc mode de gouvernement nourri essentiellement, voire même exclusivement, de données brutes et qui affecte les conduites possibles, donc qui affecte l'avenir possible, hein, sur le mode, non pas en s'adressant directement à des individus en tant qu'ils sont capables d'entendement et de volonté, on n'essaye pas de les persuader par la rationalité, mais on affecte les comportements sur le mode de l'alerte. Rien n'est moins volontaire que d'être alerté par quelque chose. Hein. Donc des alertes, c'est-à-dire des envois de signaux qui provoquent du réflexe plutôt que de la réflexivité. Donc on est face à un mode de gouvernement tout à fait inédit. Dans ce mode de gouvernement, comme je le montrerai, l'autorité n'est plus assumée par aucune figure concrète. Il est donc extrêmement difficile, évidemment, de contester ce mode de gouvernement. Les individus ne se sentent plus gouvernés, ils sont gouvernés, et on a l'impression que finalement c'est le réel lui-même qui se gouverne lui-même. Donc on a quelque chose de totalement immanent. Donc il y a une immanence, et accordée à cette immanence, on a une impression de très grande objectivité. Objectivité qui tient à deux choses. D'une part, l'automatisation croissante des processus, donc une sorte d'objectivité machinique en quelque sorte, et une objectivité qui tient aussi au fait, comme je vais essayer de l'expliquer, et comme Anne l'a déjà expliqué, qu'on a affaire à une sorte de glissement qui fait que les hypothèses ne sont plus posées a priori, donc ce ne sont plus des hypothèses posées a priori qui guident les recueils de données. Et au contraire, les hypothèses sont précisément ce qui est produit à partir des données. Et donc, on a l'impression voilà, qu'il n'y a plus d'interprétation, il n'y a plus de sélection. On a une impression d'une très grande objectivité aussi dans, le sens, dans la mesure où les big data ont l'air exhaustives. Donc, il n'y a pas de sélectivité. On a l'impression de quelque chose d'absolument non sélectif. Donc je vous expliquerai aussi en quoi ça nous change des statistiques traditionnelles dont on sait qu'elles gouvernent elles aussi, mais d'une manière tout autre. Donc voilà, gouvernementalité algorithmique, j'essaierai de relier ça, si possible, aux enjeux de la santé, ça ne va pas être évident. Voilà. Donc la santé de l'homme sans intérieur. Donc je me référais à la cybernétique, mais on peut aussi se référer de façon un petit peu anecdotique, mais pas si anecdotique que ça, à ce que Walter Benjamin expliquait il y a longtemps déjà relativement à ce qui se produit dans l'intérieur bourgeois du XVIIIe siècle. Vous savez, aujourd'hui, on reproche souvent à l'internaute, par exemple, de s'exhiber excessivement sur les réseaux sociaux et de cette manière-là de révéler des tas d'informations, y compris sensibles, y compris sur sa santé, etc. Mais en fait, le bourgeois du XVIIIe siècle faisait exactement la même chose dans son intérieur. Le bourgeois du XVIIIe siècle, pour se consoler de l'anonymat de l'espace public, de même que nous nous consolons de notre anonymat dans notre espace public, eh bien, mettait dans son intérieur tous ses efforts pour marquer de sa trace la postérité. C'est-à-dire qu'il préférait toujours le velours qui garde la forme de ses fesses et la trace du passage de sa main au tissu plus rigide qui ne garde aucune forme. Il aimait aussi avoir dans son intérieur toutes les traces de ses ancêtres, des tableaux, des bibelots qui témoignent de ses voyages, tous ces signes qui témoignaient en quelque sorte de son inscription dans ce que Bourdieu appellerait un microcosme social, hein, qui aujourd'hui a complètement disparu. En fait, quand nous nous exposons sur Internet, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons exactement la même chose que le bourgeois du XVIIIe siècle. Nous faisons des performances identitaires qui pallient finalement à l'explosion de ces microcosmes sociaux. Notre identité aujourd'hui ne nous est plus donnée, hein, elle n'est plus conservée dans nos intérieurs non plus. C'est quelque chose que nous avons à construire, à produire, et donc nous nous exposons de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je parlerai d'homme sans intérieur dans ce sens-là aussi. Nous n'avons plus d'intérieur, nous n'avons plus l'intérieur bourgeois dans lequel nous exposer, et donc c'est assez naturel finalement pour nous de nous exposer sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas nécessairement un acte de d'exhibitionnisme malade. Voilà. Donc ce sont ces deux aspects finalement que je vais relier, la cybernétique d'un côté et aussi finalement ce que par exemple François Jacob expliquait dans les années 70, lui qui était quand même un pionnier de la génétique, il expliquait que finalement ce n'est plus la vie qu'on interroge dans les laboratoires, ce sont les algorithmes du monde vivant. Là il y a une distinction qui est à mon sens en train de se perdre aujourd'hui, c'est la distinction qu'on peut faire entre la vie et les algorithmes du vivant. Les algorithmes du vivant, c'est quoi ? C'est finalement ce qui est ce qu'on trouve dans le génome. Hein. Par exemple, on peut dire que le génome, avec toutes ces métaphores de code, d'écriture, etc., fait partie de cette notion d'algorithme du monde vivant. L'algorithme du monde vivant, il n'y a rien de moins personnel hein, que l'algorithme du monde vivant. Finalement, le génome, l'algorithme génétique, si vous voulez, c'est ce qui nous survit à nous en tant qu'individus. C'est assez paradoxal, on a l'impression que c'est les données les plus individuelles qui soient, mais en fait, notre génome, c'est précisément ce dont notre corps n'est qu'une instanciation temporaire entre notre début et notre fin. Hannah Arendt, par exemple, parlait de l'existence humaine comme étant l'existence des mortels, comme finalement une trajectoire rectiligne entre un début et une fin. Nous avons conscience de notre début, nous naissons et nous mourons dans un univers biologique circulaire qui, lui, n'évolue que par la reproduction et donc est en quelque sorte infini. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles possibilités de décryptage du génome humain et aux revendications qui ont surtout prévalu au moment du lancement du grand projet génome humain, le projet Hugo, donc les prétentions à tout expliquer par le génome, y compris même les comportements, hein, on a, par la génétique, mais aussi par les big data aujourd'hui, on a l'impression d'une sorte de raplatissement de ces deux dimensions, de la dimension bios, c'est-à-dire la biographie individuelle, mon début, ma fin, mon destin à moi, moi comme personne, hein, mon destin d'animal autobiographique en quelque sorte, et le destin biologique. le destin biologique qui finalement n'a rien à voir avec moi, ma biographie, etc. C'est les gènes dont j'ai hérité, que je transmettrai, etc. Il y a cette sorte de raplatissement de deux plans qui me semble assez significatif de ce que nous vivons. Bon, ça, c'est de façon assez large et pour vous expliquer un peu le titre. Bon, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vraiment... expliquer que tout d'abord nous avons affaire, comme nous avions affaire avec l'émergence de la génétique humaine, nous avons affaire dans le contexte des big data à l'émergence d'un nouveau régime de vérité ou d'un nouveau régime de visibilité, si l'on peut dire. Ce n'est pas une transformation de ce qu'est l'espèce humaine, c'est une transformation ou un glissement des lieux où nous regardons de façon prioritaire lorsque nous voulons cartographier le monde, en quelque sorte, cartographier le monde humain, cartographier le monde social dans le contexte des big data, cartographier les perspectives de santé des individus. Voilà, ce sont des déplacements. Et comme on sait, chaque fois qu'on a une nouvelle manière de regarder un objet, on a l'impression d'éclairer la réalité avec un savoir nouveau, mais en fait on plonge dans l'ombre aussi tout ce vers quoi on ne regarde plus. Donc il y a quand même, on a l'impression, par exemple du genetic enlightenment, d'impression que grâce au génome on avait accès aux grands livres de l'humanité, on a l'impression aujourd'hui qu'avec les big data, à condition d'avoir des données massives, on pourrait tout prévoir. C'est le titre d'ailleurs d'un best-seller de Jan Ayres qui s'appelle Crunching Numbers, The New Way to Be Smart. Donc cette idée que grâce aux chiffres, automatiquement, on a accès à tout. En fait, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que on a oublié de prendre position par rapport à notre ignorance. Et je pense qu'il y a des choses importantes. Sur le plan politique, je pense que l'urgence est de savoir ce qu'on fait dépend qu'on continue à ignorer et savoir qu'ils sont là. Donc, c'est s'intéresser à l'obscurité, à ce qui n'est pas traduisible sous forme de données numériques, à ce qui ne se laisse pas réduire à du comportementalisme génétique et ce genre de choses-là. Donc, je vais m'attacher maintenant à décrire ce nouveau régime de vérité ou de visibilité. Comme je l'ai fait pour la génétique dans ce livre-là, je vais m'attacher plutôt au big data pour voir ce qui a éventuellement glissé. C'est quoi finalement les big data? Le premier élément, c'est d'abord qu'on est dans un monde de prolifération des données. On dit données, quand on pense données, on a l'impression que les données sont données par quelqu'un. Mais en fait, elles ne sont données par personne. Les données, elles prolifèrent aujourd'hui de façon absolument non contrôlée, absolument non contrôlable. On a beau avoir des instruments européens, français, belges, etc., de protection des données, de gestion des données. Aujourd'hui, c'est tout à fait illusoire de penser qu'on peut arrêter cette prolifération des données. C'est au point même, puisque tout est enregistré, on voit une diversité, une diversification des types de capteurs, y compris dans l'environnement physique. On n'est plus seulement dans le numérique. Le numérique a débordé dans le monde physique, on a des caméras de vidéosurveillance, on commence dans les aéroports à avoir des capteurs de sueur sur les rampes d'escalator, on a des systèmes de vidéosurveillance intelligente dans les aéroports aussi, qui commencent à se déployer des systèmes qui permettent de repérer le champ de vision d'un individu dans une foule et qui permet par exemple de déceler son inquiétude excessive. On a évidemment tous les systèmes de traçage et de géolocalisation qui permettent de détecter de façon statistique les trajectoires statistiquement anormales. Et on peut recouper tout ça avec toutes les mots que vous requêtez sur Internet, vos trajectoires sur Internet, avec éventuellement votre génome, avec... Voilà, c'est pour ça que je parle de big data. Il s'agit de données complètement hétérogènes les unes aux autres, qui sont recueillies à propos de quasiment tout le monde. Donc on ne peut pas dire vraiment que certaines personnes vont être discriminées par ce nouveau type de surveillance, si on peut encore appeler ça comme ça. C'est une surveillance absolument démocratique. Ça surveille tout le monde de la même façon, donc c'est assez merveilleux, donc on est tous enregistrés plus ou moins de la même façon, sans sélectivité a priori. Donc... on a l'impression finalement qu'on arrive à la numérisation ou à la mise en ombre de la réalité même ou de la vie même dans sa totalité, mais de manière complètement éclatée. Il n'y a plus une forme qui tient. C'est-à-dire que toutes ces données qui sont enregistrées à votre propos, ce n'est jamais vous. Ce sont des fragments miroitants de votre existence quotidienne qui seront finalement décontextualisés et regroupés avec d'autres fragments qui ont été recueillis à propos d'autres existences quotidiennes, hein, d'autres personnes que vous ne connaissez pas et qui ne sont pas identifiées non plus. Donc vous voyez, c'est complètement éclaté, il n'y a plus de forme qui tienne, segmenté, décontextualisé, déhistoricisé, on est dans une perspective absolument ahistorique. Et c'est pour ça qu'on peut parler finalement de données brutes. Alors, ces données brutes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des données qui sont émises, alors moi, comme on n'est pas très nombreux, je me permets d'être un peu provocante, ce sont des données qui sont émises sur un mode animalier, je vais dire ça comme ça, sur le mode de la nécessité. Ce n'est pas que je choisis de les émettre, ces données, c'est que, quoi que je fasse, elles sont là comme des traces. Je ne choisis pas de laisser des traces quand je marche dans le sable ou je ne choisis pas d'émettre des phéromones. C'est comme ça. Et donc, c'est là qu'on est un petit peu en difficulté avec ces histoires de consentement individuel, etc. Parce que qui dit consentement dit autonomie, qui dit autonomie ne dit pas nécessité. On ne fait pas le choix de choses qui sont nécessaires. Donc déjà là, on est complètement en décalage par rapport à la perspective d'individualisme possessif des données à caractère personnel, par exemple. On est complètement dans autre chose. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une transcription ou d'une inscription volontaire, délibérée, des individus ou ce genre de choses-là. Il est vrai qu'on expose sur Facebook, par exemple, notre statut. J'ai mal à la tête aujourd'hui, mon Dieu, c'est une donnée médicale, etc. Ça a du sens pour nous. On a l'impression de dire quelque chose qui a du sens. Mais en fait, les machines qui nous lisent de l'autre côté, elles vont éclater ce statement en une multitude d'autres données auxquelles elles vont faire dire tout autre chose. Donc, si vous voulez, d'un côté, il y a une sorte de concurrence entre, d'un côté, les sémiotiques signifiantes dans lesquelles, en tant qu'individu, nous nous reconnaissons lorsque nous faisons des performances identitaires, dont je parlais tout à l'heure, et les sémiotiques complètement insignifiantes à travers lesquelles nous sommes calculés, le plus souvent à notre insu, au départ de ces traces qui sont éclatées et qui sont finalement purifiées. C'est là ça, la fabrique de la donnée brute, c'est la purification par rapport à tout contexte qui pourrait être signifiant ou qui pourrait assigner à une donnée brute une valeur de signification que l'individu pourrait contrôler. Donc il y a un travail de la donnée, hein. Il y a un travail de la donnée qui est un travail de purification. Et donc ces données sont neutralisées de toute référence subjective, il ne s'agit plus de données à caractère personnel, il ne s'agit pas d'identité instituée, il ne s'agit pas de l'état civil, il ne s'agit pas de statut personnel et il ne s'agit même plus de performance identitaire. Donc ça a l'air complètement anodin. Alors pourquoi j'ai dit que c'était un objet neuf sur le plan sémiotique, ces données brutes? Eh bien c'est qu'elles ne fonctionnent pas comme... Bon, il y a trois types d'objets sémiotiques, je ne sais pas si vous connaissez un peu la sémiotique, il y a la notion d'indice ou de trace. Hein. C'est, par exemple, bon, la question que je me pose en amenant cette idée sémiotique, c'est quel est le rapport entre la donnée brute et ce dont elle est censée faire signe, ce pourquoi elle est censée faire signe? Eh bien, en fait, ça ne fonctionne pas comme un indice ou comme une trace qui fait signe pour la chose en gardant le souvenir d'un contact matériel. Mon pied sur le sable, par exemple, ça, c'est un contact matériel. Une donnée brute ne garde aucun souvenir de contact matériel. Ça ne fonctionne pas non plus comme une icône. Une icône, ça fait signe pour l'objet qu'elle représente par ressemblance. Une donnée brute ne vous ressemble pas. Elle ne ressemble à rien, d'ailleurs. C'est 1, 0, c'est du signal. C'est du signal, je ne sais même pas exactement comment il faut le caractériser. Ça ne fonctionne pas non plus comme des symboles qui font signe par convention. Un panneau de signalisation routière, eh bien c'est par convention. Un jour, on s'est mis d'accord pour se dire, voilà, ça voudra dire ceci. Une flèche qui va tout droit, ça veut dire que je peux y aller, par exemple. Eh bien, ici, une donnée brute, si vous voulez, il n'y a aucune convention, il n'y a pas de base conventionnelle à la signification de la donnée brute. La signification va être donnée par la suite et de façon absolument non conventionnelle. Donc finalement, on a affaire à ce que Umberto Eco appelle des signaux, des signaux qui sont quantifiables, bien qu'ils soient insignifiants, et qui sont d'autant plus facilement quantifiables qu'ils sont justement insignifiants, qui n'ont pas de signification. Et donc vous voyez qu'on est dans de l'insignifiance même. Le départ de cette nouvelle intelligence des données, c'est quelque chose d'absolument insignifiant. Et ça, c'est un paradoxe, il me semble, assez fondamental. Alors, la récolte des données brutes ne suscite évidemment aucune récalcitrance. Même depuis le scandale de la NSC, les gens sont d'une placidité qui, moi, me dépasse complètement. Alors, j'essaie de trouver des raisons à cela. Eh bien, c'est évidemment d'abord le caractère insignifiant, anonyme, le plus souvent, trivial, hein, de ce type de données, qui sont même des fragments de données à la limite. Hein, je ne sais pas si on peut encore appeler ça des données. Et aussi parce que le traitement de ces données brutes est une condition souvent constitutive, c'est-à-dire absolument essentielle, à l'obtention d'une série de services. Hein, notamment des services de personnalisation de vos environnements informationnels, de vos environnements de soins aussi, de vos environnements de toutes sortes. Et donc ça rend énormément de services. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réalité augmentée. La réalité augmentée, pour chaque individu, c'est une sorte d'hypertrophie de sa sphère privée, hein, qui fait en sorte que le monde va s'adapter à ses besoins tels qu'ils sont inférés au départ de ses profils. À Stanford, il y a un laboratoire qui s'appelle le Captology Lab. Enfin, il change parfois de nom. Hein. Parfois, c'est le Massively Interpersonal Persuasion Lab, qui a notamment des applications dans le domaine de la santé et qui vise à façonner d'avance, si vous voulez, les comportements des individus, par exemple, qui voudraient perdre du poids. Je vous donne un petit exemple. Hein. Vous voulez perdre du poids, vous avez un GSM, un smartphone, vous vous inscrivez sur leur service, vous payez une petite cotisation, et toutes les personnes qui, comme vous, veulent perdre du poids et habitent plus ou moins dans votre quartier, vont vous encourager, chaque fois que vous passez devant une pâtisserie, détectée par géolocalisation, à ne pas entrer dans la pâtisserie. Vous voyez ? Mais alors sur ce même mode, évidemment, il y a de multiples applications, hein, dans le domaine de la santé, bien évidemment, et les gens ne se sentent pas contraints. Hein. Ils ont adhéré volontairement, ils ont même payé pour, c'est dire. Ils ne se sentent pas tellement contraints, mais ça peut avoir de multiples applications. Et imaginez qu'on utilise les mêmes systèmes dans le contexte de du marketing électoral, par exemple. Hein. C'est très persuasif parce que ce sont vos amis qui vous persuadent. Et on sait que les amis sont beaucoup plus persuasifs qu'un article scientifique étayé avec de multiples notes en bas de page. Donc c'est ça fonctionne extrêmement bien. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas tout à fait dans de la science-fiction. Et donc par rapport à ça, le fonctionnement même du système présuppose qu'on utilise vos données brutes, qu'on fasse des grands nombres avec ça et que ce soit utilisé à de multiples finalités. Donc il n'est pas question de s'opposer à ça et en même temps de vouloir utiliser ces services. Enfin, il est beaucoup plus coûteux d'effacer ces signaux émis que de les conserver, parce que les capacités de stockage des mémoires numériques sont exponentielles, bien entendu, que ça coûte de moins en moins cher, et que par contre, il est coûteux en temps, en attention, individuellement, d'aller demander l'effacement systématique de tout ce qu'on pose sur Internet, etc. Donc finalement, il y a une sorte d'inversion entre mémoire et oubli, qui fait qu'alors que l'humanité a toujours eu l'impression de manquer de mémoire, aujourd'hui, c'est plus ou moins l'inverse. L'oubli devient une ressource rare. Donc voilà, capacité de stockage et surtout aussi parce que fondamentalement on a cette idée que grâce à l'intelligence des données, hein, le tsunami de données qu'on peut maintenant analyser, eh bien on va arriver à une forme d'intelligence supérieure. Et vraiment une nouvelle forme d'intelligence, c'est même pas une forme d'intelligence supérieure, c'est une nouvelle manière de rendre le monde signifiant par avance. Et donc ça offre ça des perspectives tout à fait inédites. Et on a l'impression que grâce à ça, on va pouvoir même modéliser le social à même le social lui-même. Donc sans plus de théories qui sont toujours un petit peu suspectes d'être porteuses d'intérêts majoritaires ou d'intérêts financiers ou d'intérêts industriels. Donc plus de théories, on a l'impression vraiment d'une possibilité d'un nouveau type de neutralité. Puisque c'est, comme je vous l'avais dit, la numérisation de la vie même. Et donc en observant et en laissant surgir des modèles de comportement ou des modèles de santé, ou des modèles de toutes sortes, de ces masses gigantesques de données, on a l'impression, donc, sans intervenir sur le réel, de faire en sorte que le réel finisse par se gouverner lui-même. Donc, Comment fait-on du sens à partir de ces données? Bon, ces données, d'abord, dans le domaine de la santé, évidemment, on peut imaginer qu'elles viennent de multiples sources. Elles peuvent venir des assurances, elles peuvent venir des pharmacies, elles peuvent venir des réseaux sociaux ou des blocs de discussion, ou de, enfin, des listes de discussion concernant certains symptômes, syndromes, de multiples sources. Elles viennent des essais cliniques, évidemment, elles peuvent venir des consultations de patients, elles viennent des assurances maladie, invalidité. Enfin, on peut imaginer de multiples sources, en plus de toutes les données comportementales dont on peut faire usage ou qu'on peut exploiter et qui émanent des réseaux sociaux notamment, mais pas seulement, des trajectoires, etc. Une petite anecdote en passant concernant quand même la question de l'anonymat du soin, etc., dans un contexte pareil. Mais il y a eu un scandale récemment, heureusement c'était pas en Belgique, c'était en France, concernant le ministère de la Santé, justement, qui a des sites, enfin qui a des pages d'informations sur les interruptions volontaires de grossesse, sur les manières de se procurer des interventions volontaires de grossesse. Alors tout ça, c'est très bien, information large du public, seulement le ministère de la Santé a sous-traité à Google Analytics l'analyse des passages sur sa page. Donc, parce que c'est toujours intéressant de savoir s'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter votre page et quels sont le type de gens qui viennent visiter, est-ce que c'est suivi des faits, est-ce qu'ils vont effectivement ou pas. Bon, seulement Google Analytics, c'est quoi? Ben, c'est Google. Et Google, c'est tout. Vous avez sur votre terminal sur lequel vous allez vous renseigner pour une interruption volontaire de grossesse, vous notez l'adresse dans Google Maps pour voir où vous allez vous rendre et vous cherchez la trajectoire. Google sait que vous habitez à tel endroit, que vous allez aller faire une interruption volontaire de grossesse dans tel centre médical. Il sait aussi la date où vous allez aller parce que vous l'avez mis dans votre Google Agenda. Vous voyez ? Et ça, ce sont... Il n'y a pas eu de données... ce sont des données extrêmement sensibles, évidemment, bien évidemment, incroyablement sensibles, qui ont été finalement divulguées par le ministère de la Santé, par inadvertance en quelque sorte, mais grâce à ce truc de Google Analytics. Donc, vous voyez, finalement, la trajectoire de toute façon de nos données, de nos données sensibles, ce ne sont même plus nos données, ce sont plutôt nos comportements qui sont visés ici, elle nous échappe tout à fait, quoi. Donc recueil de données massives. Donc Google, par exemple, a énormément de données en matière de santé, et des données qui sont probabilistes, évidemment, parce que c'est pas parce que vous avez noté le rendez-vous dans votre agenda que vous n'allez pas changer d'avis. Ça reste probabiliste, ce n'est pas un diagnostic de certitude, Mais quand même, parce que sur la masse, ça devient un instrument de gouvernement assez gigantesque. On sait évidemment que ces données sont relativement décontextualisées, et quand elles sont décontextualisées, elles perdent en finesse, évidemment. Mais pour peu que vous ayez des quantités massives, la masse, la quantité, finalement, vient pallier au manque de finesse. Vous voyez, c'est ça un petit peu la logique. Donc finalement, on a finalement des sortes de nouveaux types de savoirs dont le but n'est pas la vérité, mais une probabilité suffisante pour être opérationnel sur plein d'angles, pour plein de choses opérationnelles, notamment sur le plan marketing, ce genre de choses. Par exemple, encore un autre exemple, après j'arrête avec les exemples, le supermarché Target aux États-Unis, une énorme mall commerciale, avait envoyé dans une famille dans laquelle il y avait une jeune fille de 14 ans, des publicités, vous avez sans doute entendu parler de ça, des publicités pour des vêtements de grossesse, etc. Bon, le père Furax va voir Target, il dit, c'est pas possible, ma fille a 14 ans, comment osez-vous, etc. Eh bien, quelques semaines après, il est venu s'excuser en disant, effectivement, on ne savait pas, mais elle était enceinte. Et en fait, grâce à la liste d'achats, etc., le supermarché savait, à la limite, peut-être même avant la fille elle-même, qu'elle était enceinte. Encore un autre exemple pour vous montrer que ce n'est pas vraiment de la science-fiction. La librairie en ligne Amazon a breveté récemment un logiciel qui lui permet d'envoyer les commandes avant même que les gens aient cliqué sur « j'achète ». Vous voyez, tout ça grâce au big data. Bon, alors, comment ça fonctionne concrètement? Ok, on a plein de données. Que fait-on avec ces données? Eh bien, ce qu'on fait avec ces données, c'est simplement renoncer en quelque sorte à la rationalité moderne qui prédisait les événements parfois en les reliant à leur cause, au profit d'une rationalité tout à fait postmoderne, complètement, uniquement statistique, qui renonce à chercher les causes des phénomènes et qui cherche simplement à prédire avec une relative certitude, très relative, mais une certitude bancable, hein, économiquement valide, les comportements, les événements, etc. Donc ça c'est aussi un glissement assez phénoménal, le renoncement à la causalité. Alors ça ne marche pas toujours très très bien. Hein. Un autre exemple encore, décidément, Google Flux. Vous avez entendu parler de ce programme Google Flux dans le domaine de la santé. Google a proposé un programme qui permet de prédire les foyers de survenance et des survenances d'épidémies de grippe. De la grippe H1N1, je pense, c'était celle-là. Comment faisaient-ils? Eh bien, ils enregistraient toutes les fois où les internautes se connectaient sur Internet pour aller consulter un site Doctissimo ou autre concernant, par exemple, les symptômes de la grippe. Ils ont aussi enregistré toutes les fois où on prenait des adresses de médecins spécialisés pour ceci ou cela. Enfin, bref. Donc, finalement, une sorte de ce qu'on voit émerger, c'est une sorte de comportement numérique. Hein. Ce sont finalement ce qui se produit sur la toile, quelle que soit l'interprétation, va compter, et c'est pour ça qu'on a, c'est vraiment sens intérieur, indépendamment de l'intention même de l'internaute, ces gestes enregistrés numériquement vont être utilisés pour prédire finalement l'avenir. Bon, alors ça n'a pas marché, pourquoi? Parce qu'évidemment, le monde est peuplé de gens qui sont hypochondriaques, comme moi, qui, dès qu'ils toussent un peu, vont voir s'ils n'ont pas attrapé H1N1. Et donc, effectivement, ou des gens qui vont consulter leur médecin parce qu'ils ont une petite toux allergique et en fait, ils croient avoir attrapé la grippe. Et donc, le risque d'épidémie de grippe a été deux fois plus important, finalement, que ce qui a été avéré par le Center for Disease Control des États-Unis, par exemple. Donc, vous voyez, ça marche mal, ça marche assez mal. Mais ce n'est pas très grave, ça continue quand même. Il faut distinguer ça, je vous l'avais dit, de la rationalité statistique, parce que finalement, on pourrait se dire on a toujours fait des statistiques sur tout, et on sait très bien que les statistiques gouvernent d'une certaine manière, hein, tout ce que le travail d'Alain Desrosières sur la gouvernance par les nombres, etc., c'est pas neuf. D'ailleurs, on a beaucoup discuté de cette évolution avec lui. Mais en fait, il y a plusieurs distinctions marquantes par rapport à la statistique. Tout d'abord, c'est relativement aux finalités. Quand on faisait de la statistique classique, entre guillemets, on le faisait pour plusieurs finalités possibles. Des finalités de quantification et de commensurabilité, par exemple. Alors, on peut penser au benchmarking. Hein, par exemple, le ranking des universités en fonction du nombre de papiers publiés dans telle ou telle bonne revue, etc. Mais le but de ça, c'est d'arriver quand même à avoir des objets qui sont discutables, par rapport auxquels on peut discuter. C'est de rendre commensurables des prestations de recherche dans des domaines qui sont, eux, incommensurables. Hein, donc, rendre commensurable l'incommensurable afin de faire des hiérarchies et donc de pouvoir discuter, de faire des mesures d'ordre, etc. Mais ça reste quand même, l'objectif est de créer de la commensurabilité. Ici, dans le big data, dans le data mining, il n'y a plus du tout d'objectif de commensurabilité. Au contraire, on prend acte que la réalité, que les événements sont incommensurables et qu'on ne connaît plus les causes. Et néanmoins, on essaye de prédire la survenance de certains événements, d'éviter certains comportements d'être posés ou de faire en sorte qu'à coup sûr, certains autres comportements, par exemple des comportements d'achat sur Internet, soient posés. Donc, on s'éloigne vraiment de la quantification parce qu'il n'y a plus de débattabilité. On utilisait aussi la statistique classique pour objectiver des hypothèses faites antérieurement. Hein, donc, c'est la statistique comme preuve, en quelque sorte. Ici, comme je l'ai déjà énoncé, il n'y a plus d'hypothèse a priori. Hein, l'idée, et ça c'est un des gros changements, c'est qu'on on récolte d'abord les données, disons que les données prolifèrent, on va dire ça comme ça, hein, presque à notre insu, et puis en faisant tourner des algorithmes Alors, je dis relativement simple, hein, relativement entre guillemets, relativement simple, eh bien, on voit surgir, ou on fait surgir ce qu'on appelle des patterns ou des modèles de comportement, hein, ou des modèles d'événements, donc des modèles de séquences finalement, hein, mais qui surgissent et qui tiennent lieu finalement d'hypothèses, si vous voulez. Donc, on a l'idée qu'on va pouvoir faire de la science sans hypothèses. Et ça c'est tout à fait neuf. Voilà. Et donc finalement les hypothèses ne président plus au recueil des données. Les hypothèses sont précisément ce que produisent les données. Et ça c'est tout à fait neuf. Donc c'est en gros la fin de la théorie, a-t-on dit, hein. Mais c'est aussi la fin du projet, fin du projet politique aussi à la limite, hein. Et c'est la fin, voilà, c'est la fin de toute projection, c'est la fin de ce qu'Agamben appelait ce moment poétique de la pensée, c'est la fin de l'idée, en quelque sorte. C'est la fin du geste comme projection. Hein. On fait des hypothèses, c'est bien un geste qui peut rater l'hypothèse. Ici, on est vraiment, au contraire, dans une sorte d'immanence qui clôture le réel numérisé sur lui-même et d'indistinction croissante entre la réalité et sa représentation. On est, en quelque sorte, donc dans une sorte d'immédiation. Alors que ça passe par des ordinateurs, etc., on pourrait dire, mais c'est une fascination pour le média, c'est exactement l'inverse, c'est le refus de toutes les formes de médiation. On a l'impression que le réel doit parler de lui-même, les données suffisent. Immédiation, donc dans deux sens différents, immédiation temporelle, on est dans le temps réel, qui est tout à fait irréel pour les humains, parce que nous vivons over time. Le temps réel, c'est quelque chose qui est inappréhensible. Donc, on est dans un régime d'inintelligibilité humaine, ça c'est sûr, mais de très grande opérationnalité machinique. Donc, immédiation et suppression de toutes les transcriptions. Alors, qu'est-ce que c'était les transcriptions avant? Comme s'il y avait un avant, hein, bon. Transcription... Par interprétation, par sélection. Hein, bon, quand on faisait des cohortes statistiques, on sélectionnait les patients. L'idée, c'est qu'on pourrait aujourd'hui se passer de cette sélection. Ça paraît être un gros avantage parce que toute sélection est toujours critiquable. Il y a toujours une part de subjectivité, il y a une part d'irrationalité dans la sélection. Ici, on a l'impression vraiment qu'on ne doit plus sélectionner. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire de la modélisation algorithmique. Ça va être la nouvelle nouveauté. Ça c'est de la tautologie. La modélisation algorithmique, c'est tout différent de la statistique. En ce sens, notamment, qu'il n'y a plus de sélectivité et que donc on s'émancipe de tout rapport même à la normale. Dans la statistique, on a toujours une norme. Il y a la normale, il y a la probabilité. C'est une ligne, si vous voulez. Et par rapport à cette probabilité ou à cette normale, dans la statistique traditionnelle, on laisse tomber ou on néglige les points qui sont trop éloignés comme générateurs de perturbations. Ici, on peut prendre en compte absolument tout, y compris ce qui est le plus éloigné de la normale, ce qui est le plus éloigné de la moyenne ou du plus probable. Et ça, c'est tout à fait nouveau. On peut même dire que pour faire du profilage algorithmique, on a absolument besoin du bruit. C'est le bruit entre guillemets, qui fait résonner le profil. Alors ça, ça donne l'impression en fait qu'on est dans une très grande objectivité. Parce que l'idée de moyenne ou l'idée de normale, on sait qu'elle est toujours, quand elle est reprise socialement, elle est toujours articulée à quelques idées normatives. Chez Quetelet, par exemple, l'homme moyen, c'était l'homme idéal. Hein? Donc tout homme, on peut penser que l'homme moyen, c'est le plus idéal. Par contre, chez Galton, eugéniste, le moyen, c'était le médiocre. Lui, il cherchait les traits exceptionnels. Donc vous voyez, il y a quand même... Alors que ça, c'est de la statistique, c'est objectif, mais la statistique traditionnelle n'était pas si objective que ça, en quelque sorte, puisqu'il y avait cette idée de moyen, etc. Ici, on a l'impression d'être dans l'objectivité radicale, puisqu'on est enfin émancipé de cette idée de moyenne et de normale. Alors, j'ai essayé de retracer un peu, par exemple chez Robert Musil, qui était tout à fait passionné de statistiques, hein, qui a écrit L'homme sans qualité, je sais pas si vous, moi c'est un de mes romans fétiches, il explique ceci, hein, que quand il s'intéresse aux statistiques, les résultats de la mesure sont dispersés autour de la valeur la plus probable. Celle-ci est calculée selon les normes bien connues de la théorie des probabilités. A priori, conformément à l'hypothèse, on admet d'abord qu'elle existe. Mais il y a aussi, sous-jacente à cela, une relation de grandeur non encore considérée. Nous excluons les écarts trop grands comme source d'erreurs et de perturbations. Traduit en termes subjectifs, les écarts par rapport à la valeur moyenne n'entrent pas en ligne de compte. Donc, ça, c'est vraiment la source de toutes les critiques qui sont adressées aux statistiques ou aux objets statistiques quand ils servent de référence au débat public. Alain Desrosières l'explique très bien. Les objets statistiques, de par cette sorte de sélectivité inhérente à la pratique statistique, eh bien, sont toujours suspects de défauts de représentativité. Oui, mais vous n'avez pas tout pris en compte, donc il n'y a pas assez de chiffres. Ou bien alors, il y a trop de chiffres. C'est toujours trop ou pas assez. Or, ici, finalement, et plus finalement les données vont proliférer, plus ça va être vrai. Ici, grâce au profilage algorithmique, finalement, on va pouvoir produire des profils qui ne seront pas des rapports à une moyenne, qui ne seront que des rapports pour chaque individu à sa propre histoire, à la limite, qui servira de sa propre moyenne statistique. Donc, si vous voulez, il y a une individualisation extrême de la statistique, ça paraît complètement tautologique, évidemment, mais qui fait que finalement, on va être, bon, là, en me projetant dans 10 ans, hein, si ça continue comme ça, on aura tellement de profils à des fins de marketing, de santé, d'orientation dans l'éducation, de toutes sortes de choses, de sécurité, de tout ça, on aura tellement de profils et ces profils pourront devenir tellement fins parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de données que finalement, cet ensemble de profils va finir par coller exactement à chaque individu dans ce qu'il a de plus singulier, à la limite. Et donc, finalement, ne pas vouloir être profilé, ça va finir par être la même chose que ne pas se vouloir soi-même. Vous voyez en quoi ça devient très difficile à critiquer, parce que cette évolution-là, elle correspond assez bien à l'idéal qu'on avait, l'idéal un peu postmoderne des années, notamment des années 60, et ou de Michel Foucault, qui lui promouvait un art de ne pas être trop gouverné, ou en tout cas, de ne pas être gouverné en fonction d'autre chose que de moi-même. Et donc là, ben ça y est, on y est, dans cette sorte d'immanence totale, et donc c'est une sorte de repli de l'individu numérisé sur lui-même aussi. On dit souvent que le numérique, c'est de nouvelles communautés, etc. C'est vrai dans une certaine mesure, mais dans une autre mesure, c'est une hypertrophie de la sphère privée et un repli de chaque individu sur lui-même avec un déclin ou un assèchement tout à fait corrélatif du collectif ou du commun. Donc il y a vraiment... Et ça se voit au niveau même du traitement des données. Donc, on a affaire, finalement, peut-être, je ne porte pas de jugement a priori de valeur là-dessus, hein, il faut voir, j'ai perdu, non, ça y est, c'est là. Il y a différents types d'applications, hein, il ne s'agit pas du tout pour moi de dénoncer une quelconque théorie du complot, là derrière, ou quoi. Simplement, j'essaye de voir quels sont les glissements. Ce à quoi on aurait affaire, dès lors, c'est une possibilité de modélisation automatique, donc sans intervention humaine de plus en plus, avec ce qu'on appelle de l'auto-apprentissage par les machines, on parle de machine learning. Donc qu'est-ce que c'est qu'en deux mots le machine learning? Eh bien c'est finalement le fait que les ordinateurs apprennent par essai et erreur à affiner eux-mêmes leur profil. Bon, imaginons un exemple concret, vous recevez des publicités sur Internet qui sont adaptées à un certain profilage qui a été fait de vous. Vous n'êtes pas intéressé par telle ou telle publicité. Alors soit vous ignorez la publicité, soit parfois, et ça c'est un peu plus pervers, vous avez même la possibilité d'indiquer que cette publicité ne vous intéresse pas et vous pouvez même indiquer pourquoi. Alors vous qui êtes un rebelle, vous allez vous lâcher. Vous écrivez pourquoi vous trouvez ça complètement stupide de recevoir cette publicité, et là, ça ne vous intéresse pas du tout parce que vous êtes vraiment comme ça. Alors là, vous êtes vraiment le pigeon de la farce, évidemment. Hein. Mais, ou bien vous l'ignorez tout simplement, mais peu importe, au fur et à mesure, si vous voulez, une publicité qui rate sa cible, ce n'est pas du tout un échec. ça ne va jamais être considéré comme un raté. Au contraire, ce n'est qu'une opportunité supplémentaire pour la machine apprenante d'affiner le profilage. Et donc, si vous voulez, chaque échec, chaque raté ne vient qu'enrichir la base statistique, si on peut encore appeler ça comme ça, ou le grand corps statistique, si vous voulez, qui vous représente d'une façon très éloignée, hein, dans une sorte de téléobjectivité un peu anormative. Donc, c'est finalement, plus ça rate, plus ça réussit. C'est un peu la devise des Shadok appliquée à l'informatique. Donc, on a affaire finalement à, comme je vous le disais, à une possibilité de modélisation automatique du social, mais aussi de la santé, éducation de la santé, etc., bien entendu. Hein. Donc, à distance, ça c'est important. Alors, effectivement, quand on parlait de santé, jusque récemment, on envisage toujours le colloque singulier entre le patient et son médecin. Ici, la perspective est tout autre. Ici, on va pouvoir de plus en plus détecter à distance les individus qui n'auraient pas encore été diagnostiqués avec telle ou telle propension à développer telle maladie cardiovasculaire, par exemple, parce que le mode de vie est absolument dégueulasse, parce qu'il ne court jamais, parce qu'il n'a pas de podomètre, parce que tout ceci, tout cela, il ne fait pas de quantified self, donc il va nécessairement tomber malade. Ce genre de choses-là, je caricature un peu, mais vous voyez, c'est une possibilité de visibilisation des destins entre guillemets, hein, des destins biologiques à distance, donc une sorte de téléobjectivité, télé à distance, et objectivité parce que sans plus la subjectivité du médecin. Alors on peut se poser évidemment la question de la confiance. Hein. On sait quand même que la confiance est quelque chose d'assez essentiel dans le colloque singulier entre le patient et son médecin. Ici, eh bien, on se rend compte que le design informatique est en train de remplacer, est en train de construire à la place du médecin la confiance. Il y a de nouvelles possibilités, il y a d'ailleurs de nouvelles disciplines en design d'interface informatique qui s'appellent le morphing, par exemple, ou l'atmospherics, ça a même des noms en anglais, qui visent à adapter les formes que vous voyez à votre écran, les couleurs, etc., à votre profil individuel, de manière à vous mettre en confiance. C'est très fort utilisé dans le contexte du marketing, mais pourquoi pas l'utiliser aussi dans le domaine du conseil en matière de santé, d'hygiène, etc. Hein ? On sait par exemple que les petites filles, statistiquement parlant, préfèrent les formes rondes et rosées, et les petits garçons préfèrent les formes carrées et vertes, par exemple. Voilà, c'est ce qui spontanément me vient à travers le filtre de mes préjugés. Mais on pourrait justement, grâce au profilage algorithmique, ne plus du tout tenir compte de ces préjugés et voir si effectivement les petites filles préfèrent le rose et le rond ou si au contraire c'est tout autre chose ou si en fonction du lieu où elles habitent ou elles ne préfèrent pas plutôt les triangles. Et vous voyez, adapter vraiment les interfaces de manière à ce que lorsque vous êtes en ligne avec une interface qui vise à vous conseiller dans vos attitudes relativement à votre santé, par exemple, eh bien vous vous sentiez totalement en confiance et donc vous partagez encore plus volontiers qu'avec votre médecin traitant, des données vraiment personnelles, parce qu'en plus, vous ne vous sentez pas jugé par une machine. Vous voyez, vous n'avez pas honte. Vous voulez vous renseigner, vous avez 13, 14, 15 ans, vous voulez prendre la pilule pour la première fois. Devant le médecin traitant ou le médecin de famille, ce n'est pas évident. Hein. Tandis que devant une interface rose, c'est tout de suite plus facile. Vous voyez, donc, la confiance, c'est quelque chose qui peut être produite, elle est construite. Elle est construite par le temps dans la confiance qu'on appelle confiance routinière avec des partenaires avec qui on est en confiance depuis longtemps, le médecin de famille par exemple. Mais elle peut être construite aussi par la technologie elle-même. Alors là, ça pose toute une série de questions, évidemment, sur lesquelles je ne vais pas m'éterniser. Donc, possibilité de modélisation automatique et anticipative, tout à fait immanente, en temps réel, sur un mode à la fois industriel et hyper personnalisant. Et ça, c'est nouveau aussi. On a des quantités massives de données, et c'est hyper personnalisant, ça vous fait vous sentir vraiment unique, en fait, alors qu'il n'y a personne en face. C'est très étrange, ce truc-là. Et donc, ça permet la personnalisation de toutes les interactions sécuritaires, sanitaires, administratives, commerciales, sans qu'il n'y ait plus jamais de rencontre. Donc finalement, ce à quoi on a affaire, c'est vraiment une sorte de nouveau monde, hein, sur individualisation de la statistique, on en a déjà parlé, un monde aussi où nos désirs nous précèdent, les offres d'achat précèdent même le moment où on n'a plus l'occasion même de former ni de formuler nos désirs, qu'on est déjà servi. Le patron de Google disait qu'il deviendrait très difficile bientôt pour qui que ce soit de vouloir quelque chose qui n'a pas été prévu pour lui. Alors, affectation des comportements sur le mode de l'alerte, hein, on vous envoie des alertes, as-tu bien couru 15 minutes aujourd'hui, ce genre de choses-là. Rien n'est moins volontaire que d'avoir son attention attirée par quelque chose. Un oiseau passe par la fenêtre, je ne choisis pas d'avoir mon attention attirée. Donc, c'est pas... En fait, ça nous gouverne, si vous voulez, d'une manière qui ne supprime pas nos capacités d'entendement et de volonté, mais c'est beaucoup plus grave que ça, quelles que soient nos capacités d'entendement et de volonté, ce n'est plus par elles que ça passe. Vous voyez, donc c'est complètement bypassé. Donc la subjectivité, si vous voulez, est complètement évitée. Donc c'est un mode de gouvernement qui évite toute forme de subjectivation. On ne se sent pas gouverné et on ne se subjectivise pas. C'est un mode de gouvernement, je l'ai déjà évoqué, qui évite le raté, et donc qui évite l'événement. Il n'y a pas d'événement. Ça nous prépare un avenir sans événement. Parce que quel que soit l'événement, par exemple, de désobéissance ou de révolte que je puisse opposer à cette sorte de machinerie, chaque événement sera immédiatement décomposé en une multitude de données, éclatées, et chaque donnée va être donc ça va être disqualifié comme événement, et chaque donnée brute donc va être agrégée avec d'autres types de données, etc., pour mieux être gouvernée. Voilà, alors on peut se poser, évidemment, les conditions de la critique et de l'épreuve, de la robustesse de ces nouveaux types de savoir. Évidemment, ça se caractérise par une absence d'épreuve, hein, puisqu'on se situe dans des situations de temps réel, donc chaque fois que ça rate, ça s'adapte, etc. Alors ce nouveau type de savoir de l'avenir est caractérisé donc par une très grande plasticité, et c'est la vitesse qui tient lieu de vérité, le plus souvent, la vitesse d'adaptation de l'algorithme ou du profilage, une grande invisibilité, une inintelligibilité, mais une très grande opérationnalité. Il n'y a pas de réplicabilité. Hein, donc, finalement, les codes de la science sont en train de changer assez radicalement. Et ça marche, pourquoi ? Essentiellement parce que nous sommes paresseux et assez lâches dans une certaine mesure, et parce que tous ces dispositifs nous dispensent. On ne peut pas dire que ça marche vraiment au sens de que ça crée vraiment de la vérité, c'est plus l'objectif. Le but, c'est de créer de l'opérationnalité, et surtout, ce sont des nouveaux modes de gestion de l'incertitude qui font en sorte que l'incertitude ne soit plus suspensive de ce qu'on peut appeler la fluidité. C'est-à-dire que ça ne doit pas interrompre le travail. Que ce soit dans le domaine judiciaire ou dans le domaine de la recherche, etc., ce qui compte, c'est la vitesse, et donc ça ne doit pas être interrompu par le doute. Donc ça nous dispense, ça fait en sorte que l'incertitude ne produise aucun effet suspensif. On peut discuter de ça. Hein. Et surtout, ça évite de faire comparaître les personnes, ce qui est une perte de temps quand même monumentale. Hein. Faire comparaître les personnes dans les cabinets, chez le médecin, ou faire comparaître les objets dans les laboratoires. On ne fait plus comparaître les personnes, on les gère sur un plan qui les fait complètement disparaître, puisqu'on les gère au départ d'éléments tout à fait infra-individuels, les données brutes, et au niveau supra-individuel à travers des profils qui ne concernent pas jamais un individu, donc finalement il n'y a plus personne. Donc qui vous voulez qui s'oppose à ce nouveau type de gouvernementalité, alors qu'elle ne gère pas l'actuel, mais seulement le potentiel, le virtuel, donc l'avenir, et l'avenir c'est personne. Un risque, ce n'est jamais personne. Donc personne n'est visé, donc personne ne va se rebeller. Les catégorisations algorithmiques ne se superposent aucunement aux catégorisations socialement éprouvées, comme le fait d'être noir, d'être une femme, d'être ceci, d'être cela, qu'on peut toujours contester en disant « mais vous me mettez de côté à la douane parce que je suis noir, vous voulez me contrôler plus que les autres parce que vous êtes raciste ou ceci ou cela, ou bien alors vous pensez que j'ai telle maladie parce que j'ai été dans tel pays où... » Non. Ça ne passe plus du tout par des choses qui sont préhensibles comme ça. Comme je vous disais, c'est vraiment une politique de l'informe. Il n'y a plus une forme qui résiste, donc on ne peut plus faire d'action collective non plus. C'est l'inconvénient par rapport, par exemple, au profilage ethnique dont on a un peu parlé tout à l'heure. Ici, il n'y a pas de prise collective, puisqu'il n'y a pas d'identification collective. Ça nous dispense, comme je le disais, de toute transcription linguistique, institutionnelle, symbolique, conventionnelle du monde. ça nous dispense de la critique, ça nous dispense aussi de la désobéissance, dans une certaine mesure, parce que comme ça nous affecte sur le mode de l'alerte et qu'on a tendance à... Ben, l'alerte, ça provoque du réflexe, donc on agit, donc on ne désobéit pas, ou pas beaucoup. Et du coup, ben, dans le domaine judiciaire, surtout, ça nous dispense des procès, etc. Voilà. Ça nous dispense de la décision et de l'incertitude, ça nous dispense de l'autorité, hein, il n'y a plus d'autorité assumée par aucune figure concrète. Voilà, donc ce qui se pose par rapport à tout ça, ben c'est la question de la critique et la question de l'espace public et celui du projet, évidemment. Hein. À partir du moment où les significations sont toujours finalement déjà calculées pour nous par avance, on n'a plus vraiment, enfin l'espace public devient un peu redondant. On n'a plus vraiment besoin de se parler à partir du moment où l'avenir est présenté comme, si pas certain, au moins gérable d'avance. À condition de prendre les mesures qui s'imposent. Il y a évidemment des implications énormes sur le plan de l'assurance, mais ça, je n'en ai pas parlé, c'est tout un autre pan, évidemment. Hein. La question des discriminations anticipatives sur base de profil de risque, à partir du moment où on peut affiner les risques de cette manière-là, comment encore soutenir l'assurance sociale qui, d'après certains, serait fondée sur une sorte de voile d'ignorance, c'est-à-dire qu'on accepterait de s'assurer mutuellement que parce qu'on ne connaît pas d'avance qui est porteur de quel type de risque. À partir du moment où, ça c'est la théorie de Rawls, hein, ici en Europe c'est un peu différent, à partir du moment où on n'a plus ce voile d'ignorance, c'est-à-dire qu'on peut localiser dans les gènes de certaines personnes ou dans leur trajectoire Internet le risque spécifique, à eux-mêmes, pourquoi irait-on encore payer pour eux, par exemple, pour les autres qui ont des risques alors que moi, je n'ai pas de risque. Bon, alors, il y a plusieurs théories de la justice hein, qui peuvent contrer cet hyper-individualisme égoïste. On peut dire aussi que le contrat social, ici en Europe, n'est pas fondé sur l'intérêt égoïste. Je m'assure parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Et si c'était de quoi l'avenir est fait, je ne m'assure pas si les autres ont des plus gros risques que moi. On peut se dire au contraire qu'on s'assure on s'assure mutuellement contre les risques qui échappent à notre maîtrise, enfin, ce qu'on n'a pas choisi d'assumer, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, je pense, pour conclure, hein, que les enjeux ici sont beaucoup moins des enjeux de protection individuelle de la vie privée ou de la donnée à caractère personnel. Je trouve qu'il y a une fétichisation de la donnée qui est très dommageable, me semble-t-il. Ce qui est menacé, ce n'est pas non plus un droit à l'oubli, c'est plutôt un droit à un avenir inoccupé, un droit à un advenir inoccupé, c'est-à-dire ne pas être prédit d'avance dans toutes nos potentialités. Comme disait Spinoza, on ne sait jamais ce que peut un corps. Et cette dimension, c'est précisément cette dimension de potentialité, cette incertitude-là qui existe pour la personne qui habite ce corps tout autant que pour les autorités, y compris les autorités sanitaires. C'est cette virtualité-là, cette incertitude radicale qui aujourd'hui est la cible privilégiée du gouvernement, comme je l'ai décrit, la gouvernementalité algorithmique. Et donc ce qui tient aujourd'hui lieu de l'étranger, le malade mental, etc., c'est l'incertitude pure, l'incertitude elle-même qu'on veut éradiquer. Voilà, je pense que je n'ai pas fait le tour des questions. ma conclusion n'est pas une conclusion. Mais bon, j'espère vous avoir proposé quelques pistes de discussion. Et je vous remercie pour votre attention. Beaucoup de sion.